Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se dispute. Ravi de vous retrouver sur CNews avec nos invités face à face ce soir. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Bienvenue à vous aussi. Première thématique, on enchaîne immédiatement dans cette émission, vous le savez. On ne temporise pas. Première thématique et gros morceau de ce programme. Le pape est à Marseille. Le roi Charles III vient de quitter Bordeaux. La France est au carrefour de l'actualité du monde aujourd'hui. Au premier rang international, et Tania Thiollet a retenu quelques moments forts.
Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation.
Notre détermination et notre alliance sont plus importantes que jamais. Ensemble, nous nous tenons aux côtes du peuple ukrainien avec une solidarité résolue.
Alors pour cette dispute, nous avons souhaité non pas confronter les deux personnalités, mais plutôt les associer dans ces événements historiques. Mais Philippe Guibert, est-ce que l'histoire va retenir les deux visites principalement ?
Ouais, je pense que la visite d'une reine ou d'un roi de britannique en France est toujours un moment important. On a une relation très particulière avec la Grande-Bretagne et la monarchie britannique. Nous sommes un mélange, une centaine de monarchies et de républiques dans ce pays. Et donc, il y a toujours une fascination liée à une critique. Donc on aura ce souvenir. Le pape, je ne sais pas. Je pense qu'il a fait un discours intéressant et important. Je l'ai écouté.
On va en parler.
Je n'ai pas l'impression qu'il ait dit des choses tout à fait nouvelles par rapport à ce qui est son discours depuis pas mal d'années sur la question des migrants, même si je trouve son rappel d'humanité et d'humanisme bienvenu.
Geoffroy Lejeune, le pape, c'est le pape tout de même, c'est un chef d'État, c'est pas n'importe qui. Mais... le roi Charles III, finalement, point de vue image du monde, les têtes couronnées, c'est bien aussi pour les people, mais le pape, c'est du sérieux.
Ouais, vous m'enlevez un peu les mots de la bouche. Moi, je partage ce que Philippe vient de dire sur la relation franco-britannique, etc. Mais moi, je pense que la visite de Charles III n'a rien d'historique. En cela que, en fait, j'ai passé un très bon moment à regarder ça, j'ai aucun problème avec
bien
ça.
Sûr.
Mais en fait, il a fait un discours pour rappeler qu'on était engagé aux côtés de l'Ukraine, c'était pas un scoop, et pour la planète, c'était pas un scoop non plus. Et par ailleurs, ça s'appelle des lapalissades. Enfin, je veux dire, c'est vraiment d'une originalité vraiment très faible. D'ailleurs, on retient pas grand chose du discours de Charles III. On retient qu'il a été applaudi, et on retient, parce qu'il y a une boutade de Gérard Larcher à la fin, et on retient l'Ukraine, le climat.
Et on retient le dîner.
Et ça, je veux bien en parler, parce que la polémique,
je l'ai
trouvée honteuse. Mais voilà. Il n'y a pas grand-chose. Un monarque sans pouvoir, même si ça reste un monarque, qui vient faire une visite de courtoisie. Mais bien sûr, symboliquement, etc., c'est très important.
Mais vous savez que ces discours sont coécrits étroitement avec Downing Street.
Je connais bien le lien, etc., il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il n'y aura aucune conséquence. Le pape, en revanche, vient en France dans un contexte, je crois, historique pour l'Europe, avec ce qui se passe à Lampedusa, mais ce qui se passe en fait depuis des années, et la question migratoire qui est au cœur vraiment, je pense même du destin européen, et il vient enfoncer encore plus nos frontières. Et je pense que ça c'est historique.
Je vous laisserai défendre la visite de Charles III dans un instant, mais partons sur le pape. Le pape est arrivé. Le pape François est à Marseille pour une visite de deux jours. Il est arrivé cet après-midi. Vous l'avez vécu en direct sur l'antenne de CNews. Il entend multiplier les symboles pour défendre les migrants. Dans une Europe, c'est vrai, qui est partagée, on va l'évoquer, et il a appelé à sauver ces migrants et il dénonce la culture de l'indifférence. Là, en effet, sur le fond, sans surprise. On s'attendait à ce que le pape prenne la défense des migrants, Geoffroy Lejeune.
Alors moi, pour tout vous dire, j'ai quand même été un peu surpris parce que dans la doctrine de l'Église, il y a une chose importante qui n'est plus rappelée aujourd'hui, c'est que le vrai droit de l'homme, ce n'est pas celui d'aller où il veut dans le monde et d'immigrer là où il le veut ou là où il en a besoin, c'est de pouvoir vivre là où il est né. Le pape l'a déjà dit, le pape François l'a déjà dit, très discrètement certes, mais il l'a déjà dit. C'est une chose qui est rappelée par tous les papes depuis très longtemps. Et il n'a parlé que de l'autre partie, il a parlé du drame, c'est encore une lapalissade. Le drame, il a parlé d'indifférence par rapport à la noyade des migrants. Personne n'est indifférent à la noyade des migrants. Personne.
Ça discute.
Alors moi je veux dire,
ça tombe bien, c'est l'émission.
Ben oui. Pour en connaître beaucoup, les plus fervents opposants à l'immigration ne sont pas indifférents à la noyade d'un migrant. C'est pas le sujet. Le sujet c'est pas on s'en fiche, il faudrait qu'il meure, c'est pas du tout ça. Le sujet c'est comment répartit-on aujourd'hui la misère dans le monde. Et si on veut l'accueillir intégralement, on n'y arrivera pas. Et d'ailleurs on en accueille beaucoup trop.
On n'y arrive pas.
Et non, parce que c'est pas ce qu'a dit le pape, c'est ce que c'est la manière dont je traduis les réactions à ce qu'il dit. Et le pape aujourd'hui, je pense que son rôle aurait pu être de dire ça, de rappeler ce genre d'évidence, de dire qu'on a peut-être, on a aussi une obligation de protéger les populations qui vivent ici, et il n'en parle pas. Moi, c'est ça que je déplore. En fait, en gros, il assène un prêchi-prêcha médiatique dans un rôle qui n'est pas celui du pape, c'est un rôle très politique. Il a le droit de penser ce qu'il veut, hein, mais c'est pas le rôle, il n'est pas en train de chef de l'Église quand il dit ça. Et avec des conséquences, je crois, tous les gens comme Philippe Guivert vont nous expliquer maintenant pendant des années, mais le pape est d'accord avec moi, vous devriez en tant que chrétien...
Alors expliquez-nous, Philippe Guivert, pourquoi le pape est d'accord avec vous et peut-être qu'il enfonce des portes ouvertes. C'est ce que dit en creux Geoffroy Lejeune dans son discours, qui était très attendu sur « oui, il faut sauver les migrants ».
Oui, mais enfin, c'est pas mal de le rappeler.
Oui, mais moi, faut-il suivre aveuglément ses recommandations? Oui, peut-on le faire?
Oui, mais justement, le pape, c'est pas un personnage politique. Il n'a pas à se mêler de politique, les solutions politiques. Moi, je suis pour la séparation des ordres. Je reste un laïc. Et donc, je trouve qu'un chef spirituel est bienvenu à rappeler des valeurs fondamentales. J'aime bien qu'il soit catholique ou autre, une autre religion, ça m'intéresse beaucoup. Et je peux partager son humanisme. Mais les solutions politiques, c'est pas du pape que je les attends. Et je n'ai pas entendu ce que vous avez entendu, Geoffroy, dans ce discours. J'ai pas entendu qu'il demandait à ce qu'on accueille toute la misère du monde.
Alors il a dit un truc pire que ça. Il a dit Marseille est l'exemple de ce que doit être l'humanité, la mosaïque de la cohabitation entre les populations, etc. Marseille. Une quarantaine de morts depuis le début de l'année pour le trafic de drogue. Ouais. Marseille, c'est le Kosovo quasiment. Oui, et c'est l'exemple.
Mais il y a un large éventail de communautés de religion à Marseille.
C'est pas faux.
Le pape a voulu dire.
C'est pas faux, mais
également.
Ça se passe pas spécialement bien non plus. Enfin, pardon.
Pour poursuivre mon propos. Le pape n'a pas à donner de solutions politiques. C'est aux politiques des différents États, de l'Union européenne, de trouver des solutions. Moi, il me semble qu'il a rappelé quand même quelque chose qui peut fonder une politique. D'abord, il y a eu cette condamnation des trafiquants d'êtres humains. L'archevêque de Marseille l'a dit aussi. Vous allez me dire aussi, c'est un truisme, mais c'est un principe d'abord fondamental de l'action politique. Il y a des gens qui font ce trafic d'êtres humains avec, en gagnant beaucoup d'argent au passage, en saignant à blanc des gens qui quittent leur pays pour aller en Europe. Et ça, c'est un premier principe d'humanisme, enfin, mais qui peut conduire une action politique. Et puis le deuxième principe, c'est que l'indifférence, je trouve, existe à l'égard de ce qui se passe en Afrique, au Moyen-Orient. Elle est, parce que la cause quand même de ces migrations, on la connaît quand même, enfin, on sait qu'il y a des guerres civiles, on sait qu'il y a des crises politiques, on sait qu'il y a des pouvoirs tyranniques, on sait qu'il y a de la misère, on sait qu'il y a de la crise climatique avec des régions qui vont devenir inhabitables et qui le sont déjà, qui vont le devenir de plus en plus. Et donc les causes de la migration, on la connaît. Là où on a une différence, c'est de penser, je termine juste, de penser qu'on va résoudre, nous, nos problèmes, en mettant des frontières partout, en sortant des navires, en pensant qu'on va pouvoir stopper ce mouvement, qu'on n'arrivera pas à stopper. Si on ne résout pas, si on ne contribue pas à résoudre le problème dans ces pays. Personnellement, c'est comme ça que je comprends le message du pape. C'est une interprétation, on peut en faire d'autres interprétations. Mais là où je partage son propos, c'est sur l'indifférence à ce qui se passe de l'autre côté. On a l'impression que les migrants viennent nous attaquer, c'est pas le sujet. Ils fuient des situations.
Ouais, quand ils arrivent.
Là, je vous ai entendu
vous poser la question quand même.
Est-ce que les populations ont le droit de se défendre? Mais elles ne sont pas attaquées. On est face à des êtres humains qui fuient leur pays. Or, je suis d'accord avec vous sur un point au moins, c'est que tout le monde doit avoir le droit de vivre là où il est né.
Et de fait, dans ce discours,
qui est décrypté par
Philippe Guibert, le pape fait de la politique.
Mais bien sûr,
en tant que chef d'État, il fait de la politique. Et s'il fait de la politique, fait-il de la politique de gauche? Oui. Le pape est-il de gauche?
Le pape est clairement de gauche. On va répondre très rapidement à la question. mais le pape est proche du... Enfin, je veux dire, le pape était un adepte de la théologie de la libération. Le pape est plutôt proche des communistes. Le pape est argentin. Il a grandi dans un contexte très particulier. Il est de gauche, bien sûr. Et c'est pas grave. On a le droit d'être de gauche.
Il n'était pas le cas de ses prédécesseurs, de Jean-Paul II notamment, qui était anticommuniste.
Bah, il était anticommuniste déjà pour commencer. Jean-Paul Benoît XVI.
Le pape soit pro-communiste non plus.
Non, mais je veux dire
très favorable au régime.
Mais plutôt à gauche.
Non, mais au régime soviétique et autres.
Vu
le régime de l'Est.
Il s'en fout. Ça, c'est notre histoire à nous, c'est pas la sienne. Lui, c'est un Argentin, donc c'est d'autres préoccupations. Et donc, il a grandi, et il a même grandi politiquement, et même il a grandi dans la hiérarchie de l'Église, dans un contexte très particulier en Argentine, qu'il a mis du côté de la gauche. C'est pas grave, c'est pas un reproche, juste faut le dire. Donc, moi, je pense que.
Remarquez que sur l'avortement, sur le mariage homosexuel.
Parce que par ailleurs, il est catholique.
Sur ces sujets-là, j'ai pas remarqué que le pape était beaucoup à gauche.
Parce que par ailleurs,
ce qui d'ailleurs n'est pas très surprenant, puisque ça fait partie de la doctrine de l'Église.
Il est catholique, exactement ce que j'allais vous dire. Donc, je pense que l'Europe est en train de mourir de ce que l'écrivain anglais d'ailleurs Chesterton appelait les principes chrétiens, les idées chrétiennes devenues folles. Et je pense que, c'est-à-dire l'humanisme, Philippe parle d'humanisme, l'humanisme, est-ce que ça veut dire, en effet, laisser des passeurs organiser la traite d'êtres humains
pour
certains?
Voilà,
on est d'accord, ok. Est-ce que l'accueil, c'est laisser des gens vivre sous des tentes dans le périph' parisien, ou dans des conditions pourries, avec aucun avenir dans notre pays?
Non, certainement pas,
Est-ce que la protection... pour le coup des Français ou des Européens, c'est les laisser à la merci, parce qu'ils ne sont pas violents, pardon. Les gens qui vont à Lampedusa vous racontent que la plupart des hommes qui arrivent sont armés de couteaux et qui sont désarmés du coup quand ils arrivent. On a dans les transports en commun, en Ile-de-France, un acte de délinquance sur deux est commis, c'est le préfet de police de Paris, l'ancien Didier Lallement qui nous l'a dit, par un étranger. C'est des gens qui sont arrivés par là, pardonnez-moi. Donc, est-ce que notre principe d'accueil, c'est laisser les populations autochtones à la merci des migrants? Tout ça dans une désorganisation générale.
De certains migrants.
Oui, d'accord, de certains migrants. Mais en attendant,
mettez cette nuance, parce que sinon... étranger est un agresseur potentiel.
Mais j'ai pas dit ça, juste un délinquant sur deux en Ile-de-France, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde par rapport à la population.
Oui, mais ça veut pas dire que par rapport aux migrants, c'est pas un migrant sur deux. Ça veut dire que la moitié des agressions... commises dans les transports en commun sont commises par un étranger.
Pour le dire poliment, ils sont très largement surreprésentés. Donc du coup, est-ce que la charité,
pas d'avoir une condamnation d'ensemble sur les migrants.
Est-ce que la charité, c'est édicter des lois ou des normes ou des règles qui impliquent que par exemple, quand vous sauvez une embarcation, vous ne pouvez pas la ramener d'où elle vient, c'est-à-dire de la Tunisie ou de la Libye, mais vous êtes obligé de l'amener en Europe. Par exemple, c'est une règle européenne complètement débile. Complètement contre le bon sens. Est-ce que la solidarité, c'est laisser passer des bateaux en interdisant le pushback, c'est-à-dire de les refouler, parce que en fait voilà, ce sont les idées chrétiennes devenues folles. Moi, j'aurais attendu du pape, en tant que catholique, mais même en tant que citoyen, j'aurais attendu du pape qui vienne rappeler les idées chrétiennes tout court, c'est-à-dire la charité, oui, la charité dans la vérité. Et la vérité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vous avez le droit de vivre chez vous dignement, et donc. Et c'est là où j'avais un point de désaccord sur le fait qu'on fuit la misère, la guerre, etc. C'est marginal dans l'immigration de fuir la guerre et la misère. Les gens qui viennent aujourd'hui, notamment ceux de Lampedusa, les 12 000 qui sont arrivés, c'est plutôt une classe moyenne africaine qui a envie de travailler et qui donc vient pour...
Il y a d'énormes problèmes économiques et sociaux, on est bien d'accord.
Donc voilà. Donc en fait,
je veux bien te répondre.
Je vois pas où est la charité dans le fait de vider l'Afrique de ses populations de classe moyenne.
C'est pas nous qui vidons l'Afrique de ses classes moyennes.
Et Philippe, dites-nous avec la réponse que
vous avez apportée à Geoffroy.
Évidemment, mais surtout si les déclarations du pape peuvent avoir un impact sur la politique concrète européenne.
Je crois très peu, parce qu'il y a une séparation de l'ordre politique et de l'ordre spirituel, et que les dirigeants politiques des différents États européens sont soumis à des contraintes politiques, à un jeu de contraintes politiques, à leur électorat, à l'opinion publique, etc., etc. Donc je ne pense pas que c'est une influence considérable. Ça peut avoir une influence sur la réflexion qu'on peut avoir sur le sujet, et là où je le trouve extrêmement sévère. Personne ne dit qu'il faut... il y en a quelques-uns qui le disent. Mais personne ne dit qu'on va accueillir tous les migrants. Enfin, ça n'a pas de sens.
C'est pas une question de le dire, c'est une question de le faire. On le fait.
Non, c'est pas vrai. Par contre, qu'on ne laisse pas mourir des gens en Méditerranée, ça me paraît être un devoir d'humanité qui est aussi un devoir politique.
Mais on est
ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire qu'on va accueillir tous les migrants. Ça veut dire qu'on est capable, avec les pays qui sont en face dans la Méditerranée, de trouver des accords, de trouver des solutions pour éviter ces morts. Ce n'est pas forcément à nous de les sauver. Ça peut être aussi à ces pays. Avec la Tunisie, par exemple, pour prendre un exemple très concret, on a un énorme problème aujourd'hui avec le président tunisien, compte tenu de son comportement. Et on a bien compris avec Lampedusa, avec tous ces départs qui sont, ont été concomitants, qu'il y a une forme de pression qui est mise sur l'Europe dans un moment où il y a des négociations entre l'Europe et la Tunisie. Donc on a un problème avec le président tunisien. Ça, c'est un problème politique et le pape ne nous aide pas à le résoudre là-dessus parce que ce n'est pas son rôle. L'humanisme, c'est quand même, juste, je voudrais terminer là-dessus, c'est d'accueillir l'étranger et que l'étranger respecte les populations qui vivent déjà dans ce pays. L'humanisme, c'est de ne pas laisser crever les gens en Méditerranée et donc c'est de lutter fortement contre les trafiquants d'êtres humains. Je pense que là-dessus, on peut tous être d'accord, c'est ce qu'a dit le pape. Et puis l'humanisme, ça va consister à trouver des solutions pour qu'en effet, les classes moyennes de l'Afrique ne partent pas. Mais ce n'est pas nous qui les vidons.
Est-ce que le pape, ou en tout cas le message du pape, a vocation à culpabiliser une certaine frange de la population? Les catholiques, notamment. C'est ce que dit le sénateur aux conquêtes, Stéphane Ravier.
Je sais pas.
Mais en garde, en disant, attention, le discours du pape peut nous influencer peut-être et faire changer l'opinion.
Je pense que ça a cette conséquence. Je ne sais pas si c'est son but. Je pense que, en fait, je redis encore une fois, ce n'est pas le même monde que nous. C'est l'Amérique du Sud, c'est d'autres préoccupations, d'autres thématiques. Par exemple, sur le trafic de drogue, il est très énervé parce qu'il connaît un peu le sujet. Et sur l'immigration,
on parle. Et à Marseille.
Bah, il a fait une allusion.
Il y a 40 morts depuis le début.
Il a fait une allusion en disant que. Des trafics odieux, etc. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est un autre univers mental, c'est d'autres préoccupations, c'est d'autres angoisses, etc. Et que donc, je suis même pas sûr qu'il le fasse exprès. En revanche, par contre, moi, je pense qu'il y a une influence énorme sur la politique. C'est qu'en fait, au fond, qu'est-ce que c'est l'histoire de la non-gestion de l'immigration depuis 40 ans? C'est une histoire de culpabilisation, de morale, de moraline même, comme disait Nietzsche. Et il est à fond là-dedans, dans la culpabilisation, dans la morale. Dont se servent nos dirigeants qui n'ont pas envie d'agir. C'est ça. En fait, les dirigeants européens ont décidé qu'il fallait rien faire. En tout cas,
vous aventurez bien.
Hein, Philippe Guibert, et après j'aimerais qu'on parle de Charles III juste avant la pause.
Voyez, Philippe Guibert. Bon, d'abord, ça m'a fait sourire que Stéphane Ravier et sénateur Reconquête, qui ne parle que des migrants à longueur d'année, reproche au pape son obsession des migrants. Il y a un effet comique involontaire là-dedans, parce que l'obsession des migrants, elle est bien partagée.
Non, c'est faire culpabiliser les catholiques.
Voilà.
Dit-il.
Voilà. Mais enfin, l'obsession des migrants, ça m'a quand même fait sourire. Culpabiliser, écoutez, moi je ne suis pas croyant. J'ai écouté son discours, je ne me suis pas senti culpabilisé par son discours. Voilà, je me suis senti interpellé, je trouve que c'est un appel à la réflexion. Et tous les appels de réflexion d'un bon niveau sont toujours utiles et bienvenus. Après, comme je le répète, ça ne donne pas de solution politique et on ne fait pas de la politique à partir de la culpabilisation. Ça, c'est toujours une erreur de mélanger la morale et la politique. La politique a son propre ordre. De priorités, de choses à gérer, de responsabilités à prendre, et on ne fait pas de la politique avec la morale.
Quelques minutes.
On n'en fait pas non plus sans morale. Il faut trouver le bon équilibre.
Évidemment, et pas de politique moraliste non plus. La visite de Charles III en France s'achève, on le disait tout à l'heure. On fait le bilan en quelques minutes. Utile ou futile, finalement, cette visite?
Cette visite, quel était l'enjeu de cette
Qu'est-ce
visite?
Qu'est-ce que ça va changer pour l'avenir de la France, des relations
diplomatiques? Ça va changer la chose suivante, mais on le verra, comme toujours. Il faut des preuves et il faudra des actes derrière. Et cela, c'est au gouvernement britannique de prendre le relais du roi. C'est quand même de renouer des relations avec la Grande-Bretagne. Enfin, on a l'air de considérer, là aussi c'est notre indifférence aux questions de politique européenne et étrangère que je trouve très regrettable, mais les relations entre la France et la Grande-Bretagne se sont beaucoup détériorées depuis le Brexit, avec des négociations extrêmement difficiles, beaucoup détériorées depuis cette affaire de livraison d'armes dans le Pacifique, où la France a eu l'impression de se faire flouer par la Grande-Bretagne, qui était proche des États-Unis comme d'habitude. Bref, il y avait un certain nombre de contentieux. Et donc, bien sûr, il y a les dîners d'apparat, il y a toute la mise en scène. Mais derrière, l'enjeu politique, c'est est-ce qu'on retrouve avec la Grande-Bretagne, qui est la deuxième puissance militaire avec nous sur l'Europe au sens large, est-ce qu'on retrouve de bonnes relations? Pour moi, c'est indispensable, c'est ça l'enjeu.
Alors, est-ce que Charles III a le pouvoir, le poids, en tout cas, parce qu'avec Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre aussi, ça va beaucoup mieux dans les relations franco-britanniques, mais peut-il infléchir, influencer ces relations? Ce qu'on va surtout retenir peut-être de cette visite, c'est ce fameux dîner qui a fait polémique et qui continue d'ailleurs à refaire polémique avec des vins, Geoffroy Lejeune notamment, à plus de 2 000 euros la bouteille, dans un contexte d'inflation et de situation économique précaire pour une grande partie de la population française, ça fait désordre.
Je pense que ce serait facile de dire qu'au moment où les Français serrent la ceinture, il ne faut plus faire ça, et moi je pense l'inverse.
On va être d'accord là-dessus.
Ah ok, d'accord. moi je pense l'inverse, je vais vous dire pourquoi. Je pense que quand les Français reprochent aux hommes politiques leur déconnexion, leur niveau de vie, leur rémunération, leurs avantages, leur chauffeur, etc. Quand les Français leur reprochent ça, je pense qu'au fond ce n'est pas... Je sais que les Français pensent ça, hein, mais je pense qu'au fond ce qu'ils leur reprochent, ce n'est pas ça. C'est qu'ils aient ça sans avoir... le pouvoir, sans avoir en étant dans l'impuissance politique permanente. Ça fait 30 ans que les politiques, pardon, échouent à changer la vie, selon le mot de François Mitterrand, des Français. Et donc je pense qu'en creux, c'est vous n'arrivez plus à nous faire du bien, donc vous n'allez pas en profiter en plus. Je pense que c'est ça. Et en réalité, ce que j'aime, moi, dans ce genre de moments, de phases, etc., c'est que c'est une démonstration de puissance. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'ait pas en regard la puissance politique. Mais au fond, je pense que c'est indispensable du pouvoir, c'est indissociable du pouvoir, c'est indispensable d'être capable de ça. Et moi, je suis moi aussi touché par l'inflation, je suis un Français normal, je suis fier de mon pays quand je vois ce genre d'événement.
N'est-ce pas de la com ? N'est-ce pas un nuage de fumée ? Parce qu'il semble qu'Emmanuel Macron ait apprécié cette visite. On l'a vu, il était plutôt à l'aise d'ailleurs, tout comme son épouse. Et il a posté sur ses réseaux sociaux les meilleurs moments avec Charles III. Alors on se pose la question, est-ce que c'est diplomatique ? Est-ce qu'il y a un intérêt ou est-ce qu'il est tout simplement fan ? Je vous propose de découvrir quelques extraits, quelques moments.
Charles et Queen Camilla have landed in France for a 3-day state visit to the country.
Que vous ayez choisi de rendre visite à la France en ces tout premiers mois de votre règne est un signe d'amitié et de confiance que nous mesurons à sa juste valeur.
Voilà, et notamment sur le réseau social X du président Macron, so proud. C'est un peu cucu la praline quand même, non ? Franchement.
Non, je vais rejoindre Geoffroy.
Ah oui ?
Oui, on a tendance à quand même oublier qu'on a juste été un peu humilié. C'était en avril-mai dernier, quand le roi Charles devait venir, et qu'on a été obligé de lui dire gentiment, écoutez, c'est tellement le bazar en France avec le mouvement contre la réforme des retraites, qu'on va remettre cette visite. Je vous signale, c'est pas brillant hein, pour notre pays. Hein. Enfin, c'est de reporter une visite d'État de cette nature. C'est pas l'humiliation, le terme est un peu fort, mais enfin, disons que c'est un petit peu dommageable pour une grande puissance. Et donc, il fallait, si j'ose dire, compenser et rattraper cette affaire qui était quand même, aux yeux du monde, en tout cas aux yeux de la Grande-Bretagne, ne donnait pas une superbe image de la France. Donc, il y avait un enjeu de prestige. Là, le président Macron, dans cette vidéo très bien réalisée, avec de très belles images...
Petite musique qui va bien.
Avec la petite musique qui va bien, c'est de la très bonne communication. C'est le rôle du président de la République, après tout, de représenter l'État, le pays, d'avoir des rencontres de haut niveau. Il est parfaitement dans son rôle. Donc c'est pour une fois de la bonne communication. Je dirais pas toujours ça de la communication macronienne.
On marque une pause et on se retrouve dans Ça se dispute avec Philippe Guibert, avec Geoffroy Lejeune. On fera un point sur l'actualité également et on parlera notamment de la manifestation anti-police avec cet appel à manifester dans plusieurs villes de France demain. À tout de suite. Ça se dispute toujours en direct sur CNews avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert. Nos débats et la confrontation entre nos deux personnalités dans quelques instants. Mais d'abord un point sur l'actualité avec vous, Maureen Vidal.
Visite d'État du roi Charles III et sa femme Camilla. Bordeaux était la dernière étape de leur séjour. Le couple royal a rencontré le maire écologiste de la ville, Pierre Urmic. Après un bain de foule, ils ont visité la frégate HMS Iron Duke, le bateau de la Royal Navy, une forêt expérimentale pour finir avec le domaine viticole Château Smith au Lafitte. Gabriel Attal condamne fermement le ton d'un courrier du rectorat de Versailles adressé en mai à une famille qui se plaignait d'attouchements sexuels sur leur fille. Cette dernière dénonçait l'inaction du personnel de direction de l'école. Le rectorat se défend et affirme que la procédure a été entièrement respectée, une enquête étant ouverte. Il dénonce les propos et le comportement de la famille d'inacceptable. Enfin, l'Espagnol Pablo Longoria a annoncé qu'il restait président de l'Olympique de Marseille après avoir songé à se mettre en retrait. Il a ajouté qu'il allait porter plainte après les menaces de certains chefs de groupe de supporters. Il sera présent à Paris dimanche pour le choc de la 6e journée de Ligue 1 face au PSG.
Merci Maureen Vidal, à tout à l'heure pour un prochain point sur l'actualité avec Philippe Bibert, avec Geoffroy Lejeune. Nous évoquons encore d'autres thématiques et on se dispute. Une centaine d'organisations, de syndicats, de partis politiques appellent à manifester dans toute la France demain contre, je cite, les violences policières et le racisme systémique. Au total, plus de 110 rassemblements ont été répertoriés sur tout le territoire, notamment à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore à Nantes. Chez LFI, notamment, on considère que la police est violente et donc qu'elle tue. Écoutez Clémentine Autain, ce matin.
Vous savez combien il y a eu de morts ? Mortel de policiers. 15e mort. On parle de mort, là. Hein, de mort. En Allemagne, il y a eu un cas en 10 ans. Un cas en 10 ans. Donc, il y a un problème dans la police. Et je regrette, moi je vous le dis, je regrette que les socialistes et les communistes n'appellent pas à cette manifestation. Je note néanmoins que, par exemple, puisque vous parlez de Fabien Roussel, le Parti communiste de Seine-Saint-Denis appelle à cette manifestation.
Beaucoup trop de morts sous les balles de la police, semble dire Clémentine Autain, en comparaison avec l'Allemagne. Êtes-vous choqué par ses propos, Geoffroy Lejeune?
Je suis pas choqué, je suis consterné en fait. Moi, je veux bien qu'on fasse la comparaison avec l'Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas d'émeutes. En Allemagne, il n'y a pas le Stade de France. En Allemagne, il n'y a pas tout ça en fait. Donc, c'est absolument incomparable. Elle est, comment dire, soit c'est idiot, soit c'est volontairement manipulateur. Le nombre de morts en France, il faut prendre cas par cas. 15 morts, prenons au cas par cas. Combien étaient en refus d'obtempérer? Combien étaient en train de menacer la police? Combien étaient en train de menacer des gens dans leur intégrité? Et à partir de là, on verra combien il y a eu de morts par violence policière, volontaire, de shérifs qui se sont amusés à tirer sur la population. Et à ce moment-là, on pourra avoir ce débat. Il y en a zéro, en fait. Donc c'est pour ça que cette manifestation est nulle et non avenue. Et que par ailleurs, la propagande de la France insoumise, au-delà du fait qu'elle est insupportable. Elle est surtout dangereuse en fait. Ils sont en train de préparer, honnêtement, ils préparent les esprits en permanence à ce qu'une jeunesse radicalisée, qu'on retrouvera dans la rue demain sans doute, vive dans l'idée d'un affrontement avec la police. Tout ça étant glorifié par le cinéma. Moi, je me souviens, j'étais inquiet quand j'ai vu le film Athéna. Qui mettait en scène les émeutes. C'était un peu une répétition générale au cinéma de ce qui s'est passé en juillet dernier. C'est une cité qui s'embrase après l'arrestation d'un jeune. C'est un match à armes égales, en fait. La banlieue contre les flics, et c'est normal, et on se tire dessus. Les deux sont armés. D'ailleurs, la banlieue est plus armée que les flics. Et la France insoumise souffle sur ces braises-là en pensant qu'elle pourrait en tirer des bénéfices électoraux. Je suis désolé.
C'est ça. Ce serait donc une stratégie électorale de la France insoumise qui, pour le coup, se tirerait peut-être une balle dans le pied en agissant de cette manière, Philippe Guibert.
Non, mais une stratégie électorale vis-à-vis des banlieues, pour faire simple, qui consiste à essayer à tout prix de récupérer le vote des banlieues, qui sont quand même les quartiers qui s'abstiennent le plus dans ce pays lorsqu'il y a des élections. C'est une stratégie que vous dites qu'il tire une balle dans le pied. Depuis le lendemain des législatives, on a l'impression que LFI fait tout pour casser ce qu'ils avaient obtenu, c'est-à-dire un certain leadership à gauche. Une union quand même, où tous les autres partis les avaient suivis, bon gré mal gré, mais ils les avaient suivis. Et là, ils sont en train de tout casser. Et donc, demain, à cette manifestation qui, à mon avis, ne va pas rassembler à une population très importante, on verra demain, ce sera intéressant, mais moi je pense que ça fera un bide, ou en partie un bide, il n'y aura pas le PS, il n'y aura pas le PC. Et donc, ce à quoi on est en train d'assister derrière cette manif, sur lequel il y a plein de choses à dire, je nuancerai un peu, mais je suis globalement d'accord, mais je nuancerai un peu ce qu'a dit Geoffroy. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'on assiste à la déconstruction de l'ANUPS. Sur le plan politique, ce n'est pas tout à fait négligeable. Avec en plus des élections européennes en perspective au mois de juin, c'est-à-dire qu'on retrouve la cassure au sein de la gauche, personnellement je m'en félicite, entre la vieille gauche, qui peut avoir des critiques à faire à la police, mais considère que la police n'est pas violente de façon systémique, ou qu'elle n'est pas raciste de façon systémique, ce qui n'empêche pas qu'on puisse critiquer les bavures policières et discuter quelques points de doctrine de la police, ça me paraît faire partie du débat, mais ne se retrouve pas dans le discours de LFI et d'une bonne partie des écologistes sur la violence policière systémique et raciste. Ça me paraît très important pour l'avenir de la gauche. Personnellement, je m'en félicite parce que je pense que c'est le PS et le PC commencent à prendre conscience qu'il faut se séparer de ce discours radical et profondément malsain pour retrouver un écho auprès de leur ancien électorat.
On va écouter dans un instant Sandrine Rousseau et notamment le racisme systémique qui régnerait au sein de la police. Juste une petite question que je me suis posée tout à l'heure en préparant l'émission Geoffroy Lejeune. Demain, ces manifestations, elles seront encadrées. Il y aura des forces de sécurité pour encadrer ces manifestations. Donc ce sont les forces de l'ordre qui vont encadrer des manifestations anti-police.
Bien sûr.
C'est bien ça qui va se passer demain ?
Bien sûr, il va se passer.
Et donc les policiers ne pourront pas faire usage de violence, d'une violence qui est légitime pour la police quand il faut réprimer. Elle ne pourra pas le faire dans cette manifestation. Enfin, c'est...
Bah, en fait, techniquement, la police pourra le faire, mais je sais pas ce qui va se passer demain.
C'est quand même fou.
Mais dans des circonstances équivalentes, voilà ce qui s'est déjà passé par le passé. Manifestation après la mort de George Floyd du comité Adama Traoré devant le palais de justice de Paris en juillet 2020. Il y avait des policiers qui encadraient une manifestation qui, je rappelle, était interdite parce qu'à l'époque, on pouvait pas sortir dans la rue tout simplement. Et souvenez-vous de ces images d'un policier noir qui se fait traiter de collabo. Voilà. Ça peut se passer demain déjà pour commencer. Et ensuite, deuxièmement, tout ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites, etc., où les policiers font leur job de maintien de l'ordre face à des militants hystériques qui leur foncent dessus, qui leur sautent dessus, qui leur jettent des choses dessus, qui les provoquent.
Et pas tous les manifestants contre les retraites. Hein, c'était vraiment...
Philippe, pas le million de manifestants.
Ah, c'est important de le rappeler.
J'ai dit des manifestants. À la fin des manifestations, il y avait des manifestants qui, objectivement, cherchaient l'affrontement avec la police. Et quand, par hasard, il y a une riposte, et pour le coup, on a assez peu il n'y a pas beaucoup de policiers qui ont été condamnés pour ce qui s'est passé, parce que les affaires sont en cours, mais il n'y a pas beaucoup de policiers qui sont condamnés dans les manifs, parce que tout ça est très encadré, ils sont formés à ça, c'est leur métier vraiment. Quand par hasard il y a une riposte, parce que c'est leur métier de riposter, de ne pas laisser cela se faire, à ce moment-là on se met à hurler aux violences policières. Ils vont chercher l'image, ils vont chercher le martyr pour ensuite nourrir leur propagande. Moi je supporte juste plus en fait cet engrenage.
Mais par ailleurs, excusez-moi. Il faudrait quand même nuancer sur le débat sur la police. Moi j'ai été choqué à titre personnel que les policiers protestent contre la détention provisoire après ce qui s'est passé à Marseille où un jeune s'est retrouvé tabassé par 4 personnes et laissé pour mort avec la moitié du crâne enfoncé. C'est inadmissible insupportable.
Mais on verra l'enquête.
C'est inadmissible et insupportable.
Il est plus en détention provisoire.
Oui, mais c'est inadmissible et insupportable.
Il a fait un mois de préventive.
Que 4 policiers tabassent un jeune et le laissent pour mort en lui ayant défoncé la moitié du crâne.
C'est moi qui vais nuancer ça. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé.
Si, on sait ce qui s'est passé.
Non, on ne sait rien.
On sait qu'il y a 4 policiers et que le gamin a été laissé pour mort.
Non. Ça, c'est le récit. On a eu ce récit dans les médias, ça, je suis d'accord. Mais il y a Philippe
Yann. Tu as vu la vidéo du jeune avec la moitié du crâne en
moitié. J'ai vu, bien sûr, j'ai vu. Mais on ne sait rien de ce qui s'est passé.
Ça ne justifie pas la manif de demain.
Bien sûr,
on est bien d'accord.
Ce qui est intéressant, c'est même sur Naël, c'est la même histoire. On a des images. Mais on a des images.
Pas la même histoire.
Ce que je veux dire, c'est que.
Pas la même histoire.
Si, le récit médiatique se construit de la même manière à chaque fois.
Oui, mais on a des images médiatiques.
On a un récit, justement, on a des images, on a un récit, et on a une vérité qui s'impose. Naël a été assassiné par un policier.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens.
Globalement, le récit.
Qui ne pensent pas qu'il a été assassiné par un policier.
Sauf que.
Assassinat, ça veut dire préméditation,
etc.
Le pense pas du tout.
Sauf que ça s'est imposé, et on s'est tapé 2 semaines d'émeute. C'est ça que je dis. C'est ça qui a gagné. Cette version qui a gagné.
Donc, Geoffroy, tu sais très bien que les 2 semaines d'émeute. La mort de Naël a servi de prétexte et que
je
y a bien autre chose
je
qui se jouait derrière ces émeutes.
Pour 92% des émeutiers.
À Nanterre, je pense que l'émotion était tout à fait réelle. Pour les 2 semaines d'émeute, c'était autre chose.
Ce que je veux dire, c'est que systématiquement, je peux même parler d'un ancien cas, Michel Zecler, le producteur de musique, prétendument tabassé, etc., avec des images qui étaient tronquées. À chaque fois, l'enquête prouve que tout ça est beaucoup plus compliqué.
Beaucoup plus compliqué. Alors, reprenons sur la police par rapport à la manif de demain qui est notre sujet. Moi, je pense qu'il y a des points de discussion sur la doctrine policière et que, par exemple, le fameux 4e alinéa de la loi de 2007, qui justement autorise un policier à faire usage de son arme, non pas quand il est menacé directement, mais quand il y a un risque de fuite, est un point discutable qui est d'ailleurs interprété de façon différente par la gendarmerie qui, elle, ne tire pas, c'est sa doctrine, et la police qui, elle, considère qu'on peut tirer. Je trouve que ça, c'est un point de discussion tout à fait intéressant et important qui aurait peut-être pu éviter le drame, la tragédie de la mort de Naël.
Donc,
il y a des points à discuter sur la doctrine policière. La police n'a pas toujours raison. Et donc, il y a des points à discuter. Je ne voudrais pas qu'on passe... Je critique cette manif de demain, et je suis content que le PS et le PC n'y participent pas. Mais je trouve qu'il y a des discussions à avoir sur la doctrine.
En creux, cela dit, je vous cède la parole, Geoffroy Lejeune, mais j'aimerais qu'on écoute Sandrine Rousseau. En creux, cela dit que la police est violente, trop violente, qu'il faut sans doute la réformer, mais surtout que certains policiers sont racistes et qu'il y a un racisme systémique au sein de la police.
C'est pas la
police.
Même chose,
et oui, écoutez,
certains policiers sont racistes.
C'est ce que dit Sandrine Rousseau.
Toute la société française.
Écoutez,
on va l'écouter.
Je pense que l'institution n'est pas exempte de racisme. Je pense que oui, il y a un racisme systémique dans la police. Je ne veux pas dire que les policiers sont racistes, parce que ça, je pense qu'il y a des policiers qui subissent ces consignes et qu'il y en a bien d'autres qui ont à cœur d'être dans une égalité de traitement absolue.
Il y a donc, je récapitule, un racisme systémique, mais tous les policiers ne sont pas racistes. J'ai pas compris.
Non, mais je crois que personne n'a compris.
Personne n'a compris, rassurez-vous.
D'accord. C'est d'une confusion intellectuelle totale. Mmh. C'est même très compliqué de commenter ce passage, pardon. Parce qu'en fait, elle dit tout et son contraire, donc n'importe quoi.
Voilà. Et ça induit dans la manifestation de demain que les policiers sont racistes. On fait des amalgames, forcément, trop violents, pour des raisons de racisme.
C'est-à-dire qu'elle veut pas accuser les policiers d'être racistes, tout en expliquant que le racisme systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système de la police,
c'est ça,
provoque du racisme.
Exactement.
Voilà. Et est raciste, structurellement. C'est contradictoire. Il peut y avoir des policiers racistes, il y en a dans la société française, hein, il y en a partout, dans tous les pays du monde, il y a du racisme.
Et tous les corps de métier.
Donc il y en a dans la police, il y a des racistes.
Et par exemple,
ça n'a rien à voir avec un système qui provoque du racisme.
C'est un détail dans toute cette discussion, mais je pense qu'il y en a même moins dans la police, parce que c'est un corps, c'est une institution qui fait la part belle aux enfants de l'immigration, donc c'est ridicule.
Moi, je veux pas. C'est une des professions les plus diversifiées.
Mais bien sûr, évidemment. Et moi, je veux pas lancer le débat sur la linéa 4 dont parlait Philippe tout à l'heure, mais en fait, évidemment qu'on pourrait discuter des heures de cette doctrine policière, etc. On pourrait, d'ailleurs, les policiers eux-mêmes la remettent en question sur beaucoup de points. Et bien sûr, c'est un sujet intéressant. Malheureusement, c'est pas le sujet qui se pose aujourd'hui. Le débat, il est pas entre toi et moi sur l'usage de la force par la police. Le débat, il est entre des gens qui veulent désarmer la police et qui disent qu'il y a du racisme systémique et des gens qui considèrent qu'ils ont juste envie d'être protégés par une police qui fait bien son boulot. Oui.
Ou des gens qui défendent de manière systématique la police, quoi que fasse.
Mais je n'en connais pas.
Moi, j'en connais.
Bah non,
les syndicats policiers, parfois, y compris sur ces plateaux, ça m'arrive.
Mais justement, je ne suis pas d'accord.
Ça nous arrive de débattre avec eux. On a une tendance à prendre toujours la défense de la police.
Et non, je les trouve extrêmement nuancés, justement. Et notamment, ils respectent le temps de l'enquête et ils respectent la présomption d'innocence que personne d'autre ne fait. Et pour terminer, juste sur cette manifestation, moi, il y a presque ce qui me choque le plus, au-delà des outrances de Sandrine Rousseau et de Clémentine Autain, ce qui me choque le plus, c'est que dans les. Grosso modo, la frange de la population qui pense qu'il y a des violences policières et un racisme systémique dans la police, c'est 15% de la population. Si on voit les enquêtes d'opinion, etc.
En voyant large.
Et voilà, en voyant très large, c'est 15% de la population. Demain, dans les organisateurs, enfin dans les gens qui vont manifester, il y a le syndicat de la magistrature, donc des magistrats. C'est ceux qui nous jugent quand on passe devant le tribunal. Voilà, 30% des magistrats. C'est-à-dire que 15% de la population française est représentée dans la magistrature par 30% des magistrats. Et ça, je trouve ça terrifiant. Au-delà du devoir de réserve des magistrats, au-delà de tout ça. En fait, ces gens, c'est une prise de pouvoir idéologique sur la magistrature qui est super dangereuse.
À 30%, ils n'y arrivent pas. La preuve, c'est...
Mais c'est surreprésentation.
Oui, mais tout de même, c'est une vraie tendance qui est particulièrement inquiétante.
Tendance, je remarque qu'après les émeutes, quand il y a une circulaire enfin ferme du pont Moretti, pour qu'il y ait des comparutions immédiates et des sanctions... Ça a été appliqué.
Ouais,
il y a eu une vraie...
obligés d'appliquer le droit, ça c'est sûr.
Bah oui, donc ça veut dire qu'avec leurs 30%, je suis d'accord que leur présence demain à cette manif est extrêmement discutable. Et en même temps, la manif des syndicats policiers, notamment d'Alliance, devant l'Assemblée nationale, mettant en accusation uniquement la justice, était aussi discutable.
Elle est pour le moins gênante. Juste un petit mot avant de passer au sujet des mathématiques, puisque les enfants n'ont pas la bosse des maths en France. C'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, donc on va lui accorder du temps. Mais juste une toute dernière question, ces manifs de demain. Est-ce qu'elle ne conforte pas, Geoffroy Lejeune, les comportements anti-police, justement ? Exemple, dans l'actualité, le refus d'obtempérer à Sochaux.
Ah, c'est une évidence. Moi, je pense qu'il y a un lien.
C'est-à-dire que s'il y a des manifs avec des gens, des politiques qui disent « la police tue, la police est violente, la police est raciste », à ce moment-là, pourquoi respecter cette autorité?
Ah non, mais c'est, moi, je trouve que c'est d'une évidence, c'est une évidence biblique. Par ailleurs, on n'entend jamais personne dire une chose simple, c'est que moi j'ai été arrêté il y a pas très longtemps par la police dans la rue en scooter et ça m'a amusé parce qu'on commente très souvent sur cette chaîne des refus d'obtempérer et je me suis arrêté, je me suis mis sur le trottoir là où on m'a demandé d'aller, j'ai donné mes papiers etc, on a discuté, je suis reparti et je me suis rendu compte que j'avais à aucun moment je m'étais senti en danger de me faire tirer dessus. Et le problème du refus d'obtempérer, non mais c'est quand même un sujet, le refus d'obtempérer ça commence quand même par une démarche volontaire de la personne qui
pourquoi il y a des refus d'obtempérer? C'est pas à cause de les filles. C'est parce qu'il y a des gens qui soit n'ont pas leur papier, le papier du véhicule,
on conduit pas
leur papier tout court,
oui.
Soit sont des trafiquants.
Mais on conduit pas, et ben on trafique pas. C'est ça le problème.
Oui, Jean-François.
Bah, on se met pas en infraction.
Il y a 200 000 personnes qui pratiquent le trafic de drogue en France.
Mais je suis absolument d'accord. Mais
donc on peut dire on ne sait pas bien de trafiquer. Je suis d'accord avec toi. Mais il y en a 200 000 en France.
Ça veut dire qu'à l'origine, la faute est quand même du côté de celui qui se fait tirer dessus, s'il y a tir.
Non, puis ça contribue à une atmosphère tout de même est pernicieuse. On prend quelques minutes pour parler des maths, si vous êtes d'accord, puisque je le disais, les petits Français n'ont pas la bosse des maths. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale souligne l'inquiétante incompréhension des nombres et surtout des fractions de la part des élèves entrant en 6e. Écoutez les explications de Mathieu Duvez et notamment la toute première question qui est posée par Mathieu dans le sujet.
Combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure? À cette question apparemment simple, seule la moitié des élèves qui entrent en 6e trouvent la bonne réponse. C'est le constat alarmant du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Le syndicat national des collèges et lycées évoque même une crise des mathématiques.
On a du mal dans le second degré à pourvoir les postes de professeurs de mathématiques. Et c'est parmi ces mêmes professeurs qu'on va trouver des formateurs en mathématiques pour les professeurs des écoles. Donc il y a effectivement une crise des mathématiques dans l'éducation nationale qui est assez généralisée.
Un déficit de compréhension qui concerne tous les milieux sociaux. Il atteint 85% en éducation prioritaire et reste très élevé, 75% hors éducation prioritaire et dans les écoles privées. Et pour certains élèves, il serait déjà trop tard.
Si on a des lacunes aussi importantes à l'entrée en 6e, on va avoir beaucoup de mal à les rattraper au collège avec des effectifs par classe qui sont aussi souvent très 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 chargés et puis beaucoup moins d'heures de mathématiques au collège qu'il n'y en a à l'école primaire.
Pour remédier à ce retard, le Conseil scientifique propose notamment d'introduire les concepts mathématiques plus tôt, de façon progressive et intuitive.
Philippe Guibert, je vous pose la question. Combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure?
Mais si vous voulez, moi, mes grands-parents, je suis un petit peu plus âgé que toi, mes grands-parents, nés à la fin du 19e siècle, ont eu leur certificat d'études, ils ont arrêté l'école à 14 ans. Et ce reportage les aurait catastrophés. C'est-à-dire que là, on n'est pas face à un problème de massification de l'enseignement. Les examens qu'on fait en 6e, c'est des gamins qui ont été à l'école primaire. Et l'école primaire, elle est obligatoire depuis Jules Ferry. On est d'accord. Donc, c'est une dégradation de l'enseignement lui-même. C'est pour que le niveau des maths baisse à ce point à l'entrée au 6e, il a fallu qu'il y ait une dégradation. Dégradation qui se juge pas simplement par rapport à ma grand-mère et mon grand-père, mais qui se juge par rapport au niveau d'excellence que la France a connu en maths, en ayant une grande école de mathématiques, en ayant des médailles Fields. Et donc, c'est pas du tout une fatalité. Je veux dire, dans les années 70-80, on avait un bon niveau en maths, jusque dans les années 90, je crois. On avait un bon niveau en maths avec des médailles Fields. Donc, c'est aberrant. Donc là, c'est une question d'enseignement.
Est-ce que c'est si grave que ça d'être nul en maths, Geoffroy Lejeune?
Moi, j'étais...
Ça sert à quoi les maths?
J'étais très mauvais en maths et j'ai fait autre chose. Je me suis orienté dans un domaine où j'avais pas besoin de mathématiques. J'ajoute que moi j'ai essayé de repasser le certif. J'ai retrouvé d'anciennes épreuves du certif. Je pense qu'aujourd'hui le certif de l'époque de tes grands-parents est plus dur que le bac d'aujourd'hui. C'est une certitude.
Oui.
Ah, j'en suis absolument certain. Oui. Et je te montrerai parce que
En termes d'orthographe, oui, je pense que l'exigence d'orthographe
et même de tout, ça fait froid dans le dos. Moi, ce qui m'a sidéré, glacé le sang presque dans ce sujet, c'est que combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure? Si on ne sait pas répondre, c'est pas un problème de maths, c'est un problème de français avant tout. C'est la question, c'est l'équilibre.
C'est même un problème peut-être plus
un problème tout court.
Mais, en fait, la question, c'est tout court. Quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV? C'est exactement la même chose.
Ouais, bien sûr,
et évidemment. Donc c'est un problème de non compréhension de la langue française sur quelque chose d'assez simple. Et en sixième, on a 10-11 ans, on est censé savoir pouvoir répondre à cette question. Moi, je pense que c'est lié à un appauvrissement général et notamment sur la question de la langue. Et
ouais, en vrai,
si vous n'avez pas la langue, Vous ne pouvez rien apprendre derrière. Donc, de fait, on est mauvais en maths. Mais et je pense que, si vous voulez, on a un peu abandonné. Enfin,
on n'aurait pas dû supprimer le latin et le grec, par exemple.
Non. Dans un monde qui fonctionnerait très bien, le latin, ça sert pas à parler latin, ça sert à comprendre la langue française. Et en fait, si vous voulez, mais ça se retrouve. Aujourd'hui, des adultes font des fautes d'orthographe, ça n'existait pas il y a 30 ans, sauf les dyslexiques lourds. Aujourd'hui, vous allumez un programme à la télévision, plus personne ne parle français correctement, à part sur les chaînes d'info, c'est notre métier.
À part sur CNews. À part dans sa dispute.
Non, mais je veux dire, nous, c'est notre métier. Mais les émissions de télé-réalité,
bien sûr.
Et tout ça, c'est quelque chose c'est un repère commun qui disparaît et ça va avoir des conséquences dramatiques.
Merci de nous avoir accompagnés. Ça se dispute, s'achève. Merci infiniment, Geoffroy Lejeune, Philippe Guibert. Dans un instant, Soir Info sur CNews avec Olivier de Kerenfleck. Et on se retrouve demain pour une nouvelle édition de Ça se dispute à 21h. Nouvel horaire, vous le savez.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.